Ave Maris Stella, Dei Mater Alma, atque semper Virgo, Felix Soli Porta.
Stella Maris. Une émission mariale proposée par le frère Clément Bonnou, franciscain de l'Immaculée, pour aller à la rencontre de Marie sur les chemins de l'espérance.
Bienvenue à vous, chers amis, auditrices, auditeurs. Dans les deux premières chroniques consacrées à saint Ephrem le Syrien, nous avons déjà parcouru un chemin lumineux. Nous avons d'abord contemplé Marie comme la toute sainte, la Vierge féconde, la terre pure où le Verbe de Dieu a pris chair. Puis nous avons médité Marie comme l'oreille du cœur, celle qui accueille la parole, la garde, la médite et devient mère parce qu'elle écoute. Aujourd'hui, nous franchissons une troisième étape. Après la fécondité, après l'écoute, nous entrons dans la beauté. Car chez saint Ephrem, la foi ne se réduit jamais à une idée. Elle devient chant, elle devient image, elle devient symbole, elle devient émerveillement. Ephrem n'est pas seulement un théologien qui explique. Il est un poète qui fait voir. Il est un chantre qui fait goûter. Il est, selon la tradition, la harpe de l'Esprit-Saint. Et dans sa poésie, Marie apparaît comme une icône vivante de la beauté de Dieu. Non pas une beauté superficielle, extérieure, décorative, mais une beauté qui révèle Dieu, qui purifie le regard, qui transfigure le cœur. Eh bien, c'est cela. Et dans la deuxième partie, après avoir parcouru cette beauté dans la première, nous retrouverons Serge Bassetto dans son troisième entretien, afin d'entrer avec lui dans cette expérience, comment la poésie peut devenir lieu de passage, de purification, d'intériorité et peut-être même de transfiguration. Merci encore à Jonathan qui va nous accompagner à la technique aujourd'hui. Eh bien, pour entrer dans cette partie de la contemplation de la beauté, il faut d'abord comprendre ce que signifie la beauté dans la tradition chrétienne. La beauté n'est pas seulement ce qui plaît aux yeux. Elle n'est pas seulement harmonie des formes, équilibre des lignes, éclat sensible. Dans la foi chrétienne, la beauté est une manifestation de la vérité de Dieu. Elle est ce moment où la vérité devient lumineuse. Elle est ce moment où le bien devient attirant. Elle est ce moment où le mystère devient presque visible. Saint Augustin, parlant de Dieu, s'écrit dans ses confessions, « Tard je t'ai aimé, beauté si ancienne et si nouvelle, tard je t'ai aimé. » Dieu est la beauté première. Toute beauté vraie vient de lui. Toute beauté vraie retourne à lui. Et Marie, dans cette lumière, est la créature en qui la beauté de Dieu resplendit d'une manière unique. Dans l'Évangile, Marie n'attire jamais l'attention sur elle-même. Elle est présente, mais discrète. Elle est centrale, mais effacée. Elle est comblée de grâce, mais servante. À l'Annonciation, elle répond, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Voilà la première beauté de Marie. Elle est belle parce qu'elle est disponible. Elle ne possède pas sa vie comme un bien fermé. Elle la reçoit, elle l'offre, elle la remet. La beauté chrétienne commence là. Dans une liberté qui ne se replie pas sur elle-même, mais qui se donne. Saint Ephrem le Syrien contemple Marie ainsi, comme celle en qui Dieu peut passer sans résistance. Elle est pure transparence, elle ne fait pas écran, elle devient passage. Et c'est pourquoi elle est belle. La Bible nous montre que la poésie peut nous porter à ce centre de beauté. Oui, Saint Irénée disait, le nœud de la désobéissance d'Ève fut délié par l'obéissance de Marie. L'obéissance de Marie, c'est le chemin de cette beauté. Ephrem reprend cette intuition avec le langage du chant. Pour lui, Marie est l'aube d'une humanité réconciliée. Elle est la terre où Dieu recommence son œuvre. Elle est la créature en qui la beauté originelle n'est plus blessée par le refus. Ève avait tendu la main vers le fruit. Marie ouvre les mains pour recevoir le Verbe. Ève se cache après le péché. Marie se tient debout dans la lumière du consentement. Ève introduit la peur. Marie ouvre la porte à la grâce. Voilà pourquoi la tradition orientale aime appeler Marie la toute sainte. Eh bien voilà, le chemin de la beauté que nous montre Marie et que Saint Ephrem révèle à travers ses écrits. Marie est belle parce qu'elle est toute disponible à Dieu. Elle ne retient pas la lumière, elle la laisse passer. La beauté de Marie ne détourne jamais du Christ, elle y conduit. Dans un monde saturé d'images, Marie nous rend un regard pur. La vraie beauté ne réduit pas seulement, elle transfigure. Eh bien, nous allons marquer une petite pause, une respiration musicale pour retrouver Serge Bassetto, auteur du recueil « Entrevoir sa présence » et qui va nous parler de son itinéraire à travers ses poèmes qui parlent aussi d'une présence discrète et qui n'est que la présence de Marie. Retrouvons Serge Bassetto.
Je vous salue, Marie.
Chers amis, nous sommes dans Stella Maris sur votre radio et nous sommes dans la deuxième partie de notre émission, notre chronique, c'est l'invité du jour. Et nous sommes très heureux de retrouver encore pour un troisième rendez-vous Serge Bassetto qui nous a accompagnés durant ces trois dernières semaines et qui évoque pour nous son expérience personnelle avec Marie. Et à travers son ouvrage « Entrevoir sa présence », eh bien, poésie d'inspiration mariale et christique, il nous partage un peu sa relation, sa profondeur de relation avec la Vierge Marie et aussi la vie intérieure. Serge, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, Serge, aujourd'hui, nous continuons un peu avec vous. Merci de nous rejoindre encore aujourd'hui. Nous allons parler de comment demeurer en Dieu, vivre en Marie, vivre en Dieu et parcourir un peu cette dimension mystique, l'habitation intérieure. Vous avez évoqué cela dans les précédents entretiens. Eh bien, Serge, vos poèmes parlent d'un lieu intérieur. d'un silence habité. Je voudrais vous demander, est-ce là que vous rencontrez Dieu?
Oui, alors, j'ai presque envie de dire, Dieu, lui, il est toujours là. C'est nous qui ne le rencontrons pas. Mais nous avons, grâce à lui, la grâce parfois de le rencontrer. Et on peut le rencontrer dans beaucoup de lieux, en montagne, dans la musique, dans le chant, et aussi dans la poésie. Bon, la poésie, y compris en montagne, dans la musique, on le rencontre dans un climat d'attention. C'est grâce à un climat d'attention que l'on peut l'accueillir. Marie, elle a pu accueillir l'Esprit Saint parce qu'elle était attentive, elle était patiente. Elle était fervente. Et donc, elle a pu s'accueillir de l'Esprit Saint. Et pour elle, et pour la poésie, et pour bien d'autres choses, c'est aussi une qualité d'attention. Je me souviens qu'un jour en montagne, je ne raconterai pas le contexte, c'est beaucoup trop long. J'en ai eu deux, mais je vais raconter le deuxième finalement, qui a l'air beaucoup plus matériel, beaucoup plus facile à raconter, même si on pourrait dire qu'il a fumé la moquette. Sans entrer dans le détail, il y a eu un jour, on était parti cinq jours en montagne. Bon, j'étais plus jeune évidemment, j'étais entraîné, mais c'est pas suffisant. Je crois qu'il y avait un climat, il y avait un climat d'ensemble qui a fait que les derniers mètres qui nous séparaient du sommet, ça a duré quelques minutes, j'avais l'impression que quelqu'un aurait appuyé sur un bouton automatique et pendant quelques minutes, j'étais trimballé comme j'aurais pu être trimballé sur le dos d'un âne qui aurait eu la gentillesse, si on peut dire, de me mener vers le haut et donc j'étais trimballé. Ça marchait tout seul. Ça marchait tout seul parce que probablement je devais être dans un climat d'attention, d'écoute et de présence tel que l'harmonie avait pris le relais. Quoi.
Mmh, oui.
C'est une histoire d'attention. Il y a un monsieur qui s'appelle Jean-Yves Leloup. Alors lui c'est hallucinant. Il résume tous nos entretiens en deux mots. En deux mots, il résume tous nos entretiens, toutes nos interrogations. Il dit comme ça, ou présent, ou absent. Présent à nous-mêmes, présent aux autres. Et quand on est absent, bien on est absent à soi-même, mais quand on est absent à soi-même, on ouvre la porte à d'autres choses aussi. Quoi. On peut ouvrir la porte à ce qu'il ne faut pas. Quoi. C'est pour ça que c'est la qualité d'attention. Présent ou absent.
Et oui, c'est beau ça, parce que ça rejoint aussi la belle expression de Saint Augustin. Tu étais au-dedans de moi, je te cherchais au-dehors. Et une
oui,
présence,
oui.
Voilà. Serge, nous allons parler du oui de Marie, le fiat de Marie. Et on retrouve dans vos textes une ouverture, une disponibilité. Peut-on dire que vous entrez dans le oui de Marie?
Amen, si le Seigneur me le donne.
Eh oui.
En tout cas, je l'ai entrevu. La seule chose que je peux dire à cet endroit-là, c'est que non, j'ai pas encore dit oui, mais je l'ai entrevu. Je sais pas si je l'ai entendu, mais je l'ai entrevu, je l'ai ressenti, je le ressens toujours, mais je crois que j'ai encore un peu de chemin, entre guillemets, avant de pouvoir dire oui, un vrai oui, oui est encore un peu saturé du monde.
Ben oui, mais
pour le moment.
Oui, Serge, parce que dans le poème, le bruissement de ton cœur, vous écrivez consacre-moi à te dire oui. C'est beau
et
ça.
Oui. Et oui. Là, problème, moi, c'est entre la demande et la prière. Ça aussi des deux côtés, quoi. D'un côté, je demande et de l'autre côté, je prie. Et de l'autre côté, je prie, aide-moi à dire oui, quoi. Aide-moi à dire oui.
Mais vous savez que c'est le cœur même de la spiritualité mariale. Maria dit oui. et ce oui nous a valu le Rédempteur.
Et oui, elle a accueilli le Christ.
Et oui, ce oui devient aussi le centre de votre vie spirituelle, votre chemin spirituel, Serge.
Oui. C'est le oui, je crois que c'est vraiment le chemin de l'humanité, c'est-à-dire dire oui à plus grand que soi, à faire en sorte que le spirituel spiritualise la chair.
Et vous évoquez un espace intérieur où tout s'unifie, Serge. Est-ce que c'est une expérience de paix, d'union, Serge?
Alors, là, je vais revenir sur une deuxième expérience de montagne, et puis après, je reviendrai sur... J'en ai eu une autre de montagne où... Alors je passerai le contexte aussi, mais c'était un contexte de joie, de bonheur d'être dans un climat lumineux, beau, et accompagné d'un ami qui m'apprenait, entre guillemets, à skier. Et pendant quelques secondes, j'ai eu le sentiment, j'emploie des mots du monde, j'ai eu le sentiment de me retrouver dans un théâtre de montagne, où le principal personnage, c'était cet ami qui évoluait devant moi, et il évoluait d'une bosse à une autre, et quand il essayait de partager quelque chose, il n'employait même plus de mots, quoi. Il poussait des cris, c'est-à-dire que dans certaines aspérités, dans des endroits un peu difficiles, un peu techniques, au lieu d'avoir un langage comme vous et moi, il poussait un cri. Et c'était très beau, ça faisait une espèce de spectacle cosmique assez beau. Et puis il y a eu un quart de seconde, je ne pourrais pas vous dire comment. En fait, on a tous eu l'expérience de faire, on bricole chez soi, moi je ne suis pas très bon bricoleur, et je pense que c'est arrivé à tout le monde de changer une lampe, et puis hop, il y a un faux contact, et puis la lampe, elle fait pof, elle explose, et puis il y a un éclat de lumière qui dure un quart de seconde, et puis voilà, et puis ça s'éteint. Et bien, ce jour-là, en montagne, il s'est passé ça. Pendant un quart de seconde, je ne dis pas que j'ai disparu, mais pendant un quart de seconde, j'étais devenu la montagne, l'arbre, la neige, le skieur. Je parlerai pas de sortie de corps, comme il y a des personnes qui ont vécu ça, mais en tout cas comme quelque chose où je n'avais plus de lieu. Voilà, je n'avais plus de lieu. J'étais dans un autre lieu, lequel je ne sais pas. Mais j'étais dans tous les lieux à la fois. Et pour en revenir à votre question par un autre angle, la dimension d'unité, elle se fait évidemment dans des moments de calme, de recueillement, notamment quand j'écris. Mais ça peut, je ne dis pas qu'on peut y arriver, mais ça peut se cultiver en essayant de cultiver l'attention dans nos gestes, comment on prend nos décisions. Tout est rangement, il faut ranger les choses à leur place.
Oui, je vais gérer une minute qui me reste avec vous, mais en vous posant une question presque mystique, Serge Bassetto, mais à quel moment la poésie peut devenir une prière? Quand on pense déjà au Magnificat de la Vierge Marie, quand on pense à ces poèmes bibliques qui sont des prières magnifiques, vous en avez fait l'expérience. À quel moment, Serge, la poésie peut devenir une prière?
Quand on a, par exemple, moi, sur la dernière expérience, qui était douloureuse sur le plan sentimental, alors on pourrait dire, oui, mais alors si c'est de la douleur, ça va pas. Mais non, c'est une fausse douleur, parce qu'en fait, dans cette relation sentimentale, je me suis heurté au refus de l'autre, donc douleur, mais en même temps, tout en vivant le refus, il y a une part de moi-même qui ne refusait pas de voir le beau qu'il y avait chez l'autre, et c'est le beau qui m'a pris par la main et qui m'a dit « Ne reste pas là, à cet endroit, continue de marcher, ne t'arrête pas. » ne laisse pas la place à la souffrance, ne laisse pas la place à ton ego qui veut ci, qui veut ça. Au lieu de vouloir, laisse-toi porter par le plus beau que te présente cette personne et laisse-toi conduire à plus grand que toi.
Serge, j'allais vous demander le mot de fin, mais si je vous passe cette phrase, et qu'est-ce que vous m'en diriez ? Marie comme lieu intérieur où Dieu habite.
Et oui, Marie, pour moi, c'est la chapelle cosmique. C'est une chapelle. C'est une chapelle ouverte à l'Esprit-Saint. C'est une chapelle prête à être fécondée parce qu'à l'intérieur d'elle, le Christ est là. Il est là. Il a juste à être fécondé à condition qu'on laisse la chapelle ouverte. Parce que notre corps est une chapelle. Mais elle est malheureusement souvent fermée. Et Marie, elle me dit, oui, fiat, ouvre. Elle n'a même pas à ouvrir, elle est déjà ouverte, Marie. Elle est déjà ouverte, c'est pour ça qu'elle a été choisie.
Merci, Serge.
C'est la chapelle ouverte.
Voilà, Serge. Est-ce qu'on peut trouver, entrevoir sa présence, poésie d'inspiration mariale et christique, partout dans les librairies?
Si Dieu le veut, peut-être un jour, mais pour le moment, ce n'est pas le cas.
Voilà.
Pour le moment, ce n'est pas le cas. Je suis désolé.
Très bien. Je suis sûr que nous allons vous retrouver à Toulouse un de ces jours pour présenter dans une de nos paroisses ces poèmes et pour édifier et peut-être orienter les cœurs vers cette présence intérieure, cette rencontre avec Dieu à travers Marie. Serge Bassetto, merci.
Merci beaucoup, à très bientôt.
À très bientôt. Eh bien, après avoir contemplé Marie comme beauté de Dieu, eh bien, nous allons voir ce que cela nous demande aujourd'hui. Comment vivre cela aujourd'hui? Comment redevenir capable de beauté? Comment laisser notre regard être purifié? Comment permettre à Dieu de transfigurer notre vie? La première urgence, vous savez, une urgence spirituelle est peut-être de retrouver l'émerveillement. Nous sommes souvent blasés. Nous avons vu beaucoup d'images. Nous avons entendu beaucoup de discours. Nous sommes saturés d'informations. Mais l'émerveillement est autre chose. S'émerveiller, ce n'est pas être naïf. C'est reconnaître qu'il y a dans le réel plus que ce que nous maîtrisons. Marie s'émerveille. Dans le Magnificat, elle chante « Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom ». Luc chapitre 1, verset 49. Elle ne se regarde pas elle-même, elle regarde ce que Dieu fait. Voilà l'émerveillement chrétien. Vois Dieu à l'œuvre, dans une rencontre, dans une parole, dans un pardon, dans une fidélité, dans une petite lumière au cœur d'une journée difficile. Mais pour s'émerveiller, il faut purifier le regard. Le regard peut devenir dur. Il peut juger vite. Il peut réduire les personnes à leurs défauts. Il peut consommer les images. Il peut comparer sans cesse. Marie nous apprend un regard chaste. La chasteté du regard n'est pas seulement une question morale. Elle est une manière de voir sans posséder. Vois l'autre comme un mystère. Vois le pauvre comme un frère. Vois le malade comme une présence. Vois le monde comme une création confiée. Vois sa propre vie comme un lieu où Dieu travaille encore. Un regard marial ne dévore pas, il accueille. Il ne réduit pas, il honore. Il ne capture pas, il laisse vivre. Eh bien voilà, le chemin de la vraie beauté. Et je résume, avant de nous lancer dans une petite prière de conclusion, eh bien, l'émerveillement est une porte d'entrée dans la foi. Un regard marial ne possède pas, il accueille. La beauté chrétienne ne nie pas les blessures, elle les transfigure. Une vie donnée devient une icône de Dieu. Dans un monde désenchanté, la beauté peut redevenir mission. Eh bien, en remerciant Jonathan qui nous a accompagnés durant ce temps de partage, eh bien, orientons-nous vers la prière en nous adressant à Marie. Ô Marie, toute sainte, vierge de l'écoute, mère de la beauté divine, apprends-nous à accueillir la parole comme une semence de vie. Purifie notre regard de tout ce qui le rend dur, possessif ou superficiel. Rends-nous capables d'émerveillement, de silence, de contemplation, que notre et que nos blessures, j'allais dire, deviennent des lieux de grâce, que nos vies deviennent des icônes de ton Fils. Marie, beauté de Dieu, offerte au monde, conduis-nous à Jésus, lui qui est la splendeur du Père, la lumière véritable et la joie de nos cœurs. Amen. Thank you.